que ce qu'on dit avec la bouche, tout en croyant du cœur, que ces choses s'accomplissent, n'est-ce pas? Donc on va dire ceci, voici ma Bible, c'est la parole inspirée de Dieu. Et je suis tout ce qu'elle dit que je suis. Je possède tout ce qu'elle dit que je possède. Et je peux faire tout ce qu'elle dit que je peux faire. Et je vais maintenant recevoir la semence incorruptible de la parole de Dieu. Et je ne serai jamais préparé. Et je serai changé et transformé de gloire en gloire dans l'image de Dieu. Amen. Alléluia. Vous savez qu'il y a déjà 4 semaines, nous avons commencé une série sur la garantie d'une vie réussie. Et on a parlé de cela, que beaucoup des compagnies aujourd'hui vont offrir une garantie. On voit souvent l'assaut sur l'emballage, satisfaction garantie, 100%, sinon ils vont rembourser vos fonds, votre argent. Et qu'est-ce qu'on a dit? C'est qu'en réalité, on devrait être capable de mettre un tel saut sur chaque Bible, n'est-ce pas? Satisfaction garantie, 100%. Pas 50, 90, mais 100%. Et qu'est-ce qu'on a vu? C'est que aussi longtemps que nous suivons les directions que nous trouvons dans la parole de Dieu, que nous allons à 100% des fois réussir dans la vie. Dieu nous a promis de toujours triompher en Jésus-Christ. Tout le monde dit toujours. En toutes choses, toujours. Ça, c'est le langage biblique. Quand Dieu parle de notre vie, il parle d'une vie victorieuse. Amen. Et qu'est-ce qu'on sait? C'est que si on vit selon la parole de Dieu, notre vie va prospérer. On a vu la semaine passée, la clé du bonheur, c'est l'honneur, n'est-ce pas? Et si on est capable d'honorer la parole de Dieu, on va vivre longtemps sur la terre et on va être heureux. On va avoir une vie qui est longue et heureuse. Tout le monde dit longue?
Long.
On va le dire encore. Longue et heureuse, n'est-ce pas? C'est bon, hein? Fait une belle chorale ici, n'est-ce pas? Tout le monde peut monter sur l'estrade et chanter ce matin. Mais c'est ça qu'on veut, n'est-ce pas? Moi, je veux vivre longtemps sur la terre, mais je ne veux pas vivre longtemps dans la misère. Et je ne veux pas juste vivre quelques moments du plaisir passager. Puis, comme je dis, faire du parachutisme, ça serait vraiment le fun. Ça, c'est une chose que j'ai toujours voulu faire, c'est de sauter dans l'avion. Et je me suis dit, ça serait fun. Même quelqu'un qui n'avait pas un parachute, s'il ne savait pas, ça serait le fun, hein? On vole pour quelques minutes, mais c'est la fin de l'histoire qui fait dur. Et c'est ça une bonne image d'une vie qui n'est pas vécue selon la parole de Dieu, une vie de péché. C'est le fun, on vole, on a du plaisir, c'est agréable. Si le péché n'était pas le fun, personne ne le ferait. Vous êtes d'accord? Mais c'est ça, on ne veut pas une vie qui est juste remplie de plaisir, mais qui ne dure pas longtemps. On veut pas une vie qui dure longtemps, qui est misérable. On veut longue et heureuse. Et pour avoir cela, il faut vivre selon la parole de Dieu. C'est seulement la parole qui peut nous satisfaire. Et on a, dans notre verset, psaume 107, 8 et 9, on lit cela, qu'il loue l'Éternel pour sa bonté. N'est-ce pas merveilleux de savoir que notre Dieu est bon? Et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Car il a satisfait. Il a fait quoi? Il a satisfait l'âme altérée. Il a comblé de bien l'âme affamée. Donc, on voit cela encore, que Dieu veut nous satisfaire. Il veut que nous ayons la satisfaction dans tous les domaines de notre vie aussi. Quand Dieu parle d'une vie satisfaite, ce n'est pas juste une vie spirituelle où vous allez prier, lire la Bible et avoir une certaine paix intérieure. Mais Dieu veut qu'on soit satisfait dans tous les domaines de notre existence. Sur le plan spirituel, oui. Sur le plan émotionnel, oui. Sur le plan physique, oui. Sur le plan financier, oui. Il veut qu'on soit satisfait. Sur le plan sexuel même, oui. Savez-vous qu'il y a des instructions qui se trouvent dans ce livre qui sont garanties à vous donner du succès, la réussite, le plaisir et la satisfaction si vous suivez les instructions. Amen? Mais il faut les suivre. Si on ne suit pas, on n'est pas récompensé. Vous êtes d'accord? Alléluia. En fait, j'aurais besoin d'un volontaire ce matin. Qui aimerait m'aider ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Michel? Viens, Michel. Donc, j'ai une petite enveloppe pour toi. Et ici, dans cette enveloppe, il y a quelques instructions. En fait, c'est simple, mais si tu veux l'ouvrir et lire... À votre droite, c'est ça. Alors, c'est bon, mais qu'est-ce que vous allez faire? Bon, il est en train de suivre les instructions, n'est-ce pas? Quelqu'un a besoin de se déplacer, il me semble, hein? Alors? Ouais, ça serait le fun, hein? On peut toujours rêver, n'est-ce pas? Non, c'est une facture, c'est mon facture de Hydro-Québec. Non, c'est pas ça. Mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de suivre les instructions.
Présentez-vous devant Simon Roy.
Vous connaissez le gars, ça tombe bien, hein? Simon Roy, c'est son gendre. Il est où, Simon? Ah, il est en arrière. Suis les instructions. Et voilà, il y va. Ouais, c'est ça. Et il vient de dire, Simon, je suis là pour réclamer mon prix. Et qu'est-ce que c'est? C'est juste une petite carte de Tim Hortons pour 10$. Donc, voilà. C'est pas 1000$, désolé. Mais, tu sais, c'est une question de santé. 1000$ chez Tim Hortons, c'est pas bon pour la santé. Donc, c'est par amour qu'on a juste mis 10, OK? C'est correct. Mais qu'est-ce qu'on voit, c'est que... Imaginez si Michel aurait pris l'enveloppe, il a ouvert l'enveloppe, et après avoir fait la lecture de ses instructions, première chose qui était demandée, va chercher une enveloppe qui est collée sous la troisième chaise du troisième rangée à votre droite, mais il avait un choix à faire, n'est-ce pas? Il avait un choix à faire. De un, il aurait pu juste lire les instructions, resserrer l'enveloppe et s'asseoir. Ou, comme il a fait, il a pris une décision d'agir et de suivre les instructions et de suivre la direction qui était à l'intérieur. Et maintenant, il peut aller chez Tim Hortons et jouir de 10$ de bienfaits. N'est-ce pas bon? Mais c'est la même chose. La vie chrétienne est comme ça. Dieu nous donne les instructions dans sa parole. Et à chaque fois que vous ouvrez votre Bible, je veux que vous pensiez à ces petites enveloppes. Dieu vous donne les instructions. Et si vous suivez les instructions, vous allez avoir le prix qu'il vous promet. Et ça vaut beaucoup plus qu'une petite carte de Tim Hortons. Vous êtes d'accord? Hein, vous avez besoin, le prix que Dieu vous donne, de un, il vous promet le prix de la vie éternelle. Vous n'avez plus besoin d'aller à l'enfer. Vous pouvez aller au ciel et passer l'éternité avec le roi des rois, le seigneur des seigneurs, et avec la famille de Dieu. Mais il faut suivre les instructions. Quelles sont les instructions? Si tu confesses avec ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Donc, quelqu'un qui suit les instructions, il reçoit, quoi? La vie éternelle. Quelqu'un qui est malade, il y a des instructions dans la parole de Dieu. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église. N'est-ce pas? Et la prière de la foi, l'onction de l'huile, on voit en Jacques chapitre 5, 17, que la prière de la foi sauvera le malade. Le Seigneur le relèvera et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Suivez les instructions, vous allez recevoir le prix. Amen. Vous avez des problèmes avec des gens qui sont fâchés avec vous. Suivez les instructions de Proverbe 15:1. Une parole douce calme la fureur. Amen. Vous voulez avoir un mariage réussi? Suivez les instructions. Marie, aimez vos femmes comme Christ aimait l'Église et s'est livré pour elle-même. N'est-ce pas? Femmes, soyez soumises à vos maris. Vous voulez avoir le prix d'un bon mariage? Suivez les instructions. Alléluia. Il y a un autre verset que j'aime beaucoup. En psaume 25, verset 12 à 14, qui dit ceci. À l'homme qui révère l'Éternel. Est-ce qu'il y a des gens qui ont de la révérence pour Dieu ce matin? À l'homme qui révère l'Éternel, l'Éternel montre la voie qu'il doit choisir. Alors, je vais le relire, cette partie. À l'homme qui révère qui? L'Éternel. L'Éternel montre la voie qu'il doit choisir. Nous avons tous des choix à faire dans la vie. Hein? On a révélé à Michel Bergeron la voie qu'il avait besoin de suivre pour arriver à recevoir sa carte de cadeau de Tim Hortons, n'est-ce pas? Heureusement, il était à l'écoute. Heureusement, il a agi. Il a suivi les instructions. Mais regarde bien verset 13. Il le fait vivre dans le... Dis ça plus fort. Dans le bonheur. Et sa postérité possède le pays. Est-ce que vous voyez là-dedans encore le principe d'une vie qui est longue et heureuse? Parce qu'on voit, il le fait vivre dans le bonheur et sa postérité. C'est pas quelqu'un qui va mourir avant d'avoir des enfants ou des petits-enfants. C'est quelqu'un qui va avoir une postérité. Et la postérité de cet homme ou de cette femme, la postérité va quoi? Posséder le pays. Donc on voit, et ça c'est merveilleux, n'est-ce pas? De savoir que si vous vivez selon les instructions que Dieu vous donne, que vous êtes en train de mettre en place une atmosphère de victoire et vous êtes en train de mettre en marche un héritage de triomphe pour tous vos descendants. N'est-ce pas merveilleux? Moi, je veux laisser en arrière de moi un héritage. Et laisse-moi vous dire, je sais que cela ne veut pas dire que il n'y aura pas des problèmes, il n'y aura pas des moments difficiles où chaque enfant a besoin de prendre ses propres décisions, n'est-ce pas? Mais quand même, en tant qu'homme de Dieu ou femme de Dieu, nous avons les choix à faire et nos choix vont affecter les générations à venir. L'Éternel confie ses desseins à ceux qui le révèlent. N'est-ce pas quelque chose? C'est qui? On parle de Dieu Tout-Puissant, il confie ses desseins à ceux qui le révèrent, et il les instruit de son alliance. Souligne le mot instruit. On parle de comment suivre les instructions aujourd'hui. On parle du fait que Dieu nous aime, et il nous donne les instructions, et si nous suivons les instructions, on arrive à la place où on peut réclamer les bénédictions de Dieu, et où on peut saisir et recevoir le prix que Dieu a prédéterminé. N'est-ce pas merveilleux? Combien de vous voulez vraiment saisir le prix? Est-ce que vous avez pensé à ça dernièrement, jusqu'à quel point le prix est grand et merveilleux? Paul a dit cela en Philippiens chapitre 3, une chose que je fais, oubliant ce qui est en arrière, me portant vers ce qui est en arrière, je cours vers le but. Pourquoi? Il veut saisir le prix de la vocation céleste. Il y a quelque chose que Dieu a planifié pour chacun de nous et on peut saisir ses bénédictions et ses prix. Donc, quels sont les bienfaits de suivre les instructions? Je vais vous donner 4, juste pour vous donner le goût de suivre les instructions. Il y en a beaucoup plus, mais juste pour sauver un peu de temps ce matin, je vais vous donner quand même 4 choses, 4 bienfaits de bien suivre les instructions que Dieu nous donne dans sa parole. Premièrement, c'est la sagesse. Savez-vous que chaque fois que vous suivez les instructions, que vous trouvez la sagesse de Dieu? La sagesse de Dieu. Regardons le verset, Proverbe 8:10. Préférez mes instructions à l'argent et la science à l'or le plus précieux, car la sagesse vaut mieux que les perles, elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Savez-vous qu'il n'y a absolument rien qui vaut mieux que les instructions et la sagesse de Dieu qui se trouve dans ce livre. Allô? Franchement, c'est combien de chrétiennes aujourd'hui, je me pose la question, si quelqu'un se présenterait devant eux et quelqu'un dit, bon, tu as un choix. Soit tu peux recevoir un dépôt direct de la sagesse divine, ou je vais vous donner aujourd'hui même un chèque de 1 million. Moi, je pense qu'il y a quand même beaucoup de chrétiens qui seraient pas mal tentés de prendre le chèque de 1 million, n'est-ce pas? Et de se repentir après. N'est-ce pas vrai? Mais c'est ça le truc, hein? C'est ça que beaucoup de chrétiens agissent comme ça. La sagesse est là. Oh, je sais que je devrais choisir cela, mais cette fois-ci, encore une fois, je vais juste faire qu'est-ce que je veux. Parce que je vois devant mes yeux la tentation. Je peux le sentir, je peux le toucher, je peux le voir. C'est agréable à voir, c'est bon à manger. Hein? Quels sont le monde? La Bible dit que le monde n'a pas changé, hein? Le système du monde. C'est toujours la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Mais selon la parole de Dieu, la sagesse de Dieu et l'instruction de Dieu vaut mieux que tous les objets de prix. Ça vaut mieux. Mais je pense que si on est honnête avec soi-même, si on est vraiment honnête, il n'y a pas grand monde dans l'Église, je parle de l'Église universelle, il y a quand même pas mal de chrétiens qui ne choisissent pas la bonne chose dans la vie quotidienne. Vous êtes d'accord? La sagesse, préférer mes instructions à l'argent. C'est quoi l'autre chose que les instructions vont nous apporter? C'est le repos. Le repos. On vit dans un monde qui est stressé, n'est-ce pas? C'est stressant la vie aujourd'hui, mais Jésus a dit ceci, « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble du cœur, et vous trouverez du quoi? Repos pour vos âmes. » Vos âmes, c'est quelque chose, quand on parle de l'âme, on parle de quoi? La volonté, on parle aussi de l'intellect et on parle des émotions. Combien de jeunes dans votre entourage ont besoin d'un peu de repos dans les émotions? Dans leur intellect. N'est-ce pas? Mais c'est ça, on voit ici que si on se laisse instruire par Dieu et on suit les instructions de Dieu, on finit par retrouver la paix et le repos pour notre âme. Plus besoin d'être stressé. Je m'inquiète de rien parce que Dieu est bon et Dieu prend soin de moi. Est-ce que tu as déjà vu un oiseau stressé? Avez-vous déjà entendu un oiseau s'inquiéter où est-ce que je vais manger demain? Comme Jésus a dit, regarde les vivres des champs, regarde les oiseaux. Le Père, il prend soin d'eux et vous valez beaucoup plus qu'un oiseau, n'est-ce pas? Alléluia. Et c'est une bonne chose parce que j'ai pas besoin d'être stressé, je peux rester dans le repos, dans la paix, car je reçois les instructions de Dieu. Amen. Troisième chose, c'est la fermeté. Il y a deux versets que j'ai mis dans vos notes ici. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 15. « Ainsi donc, frères, demeurez fermes et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre lettre. » N'est-ce pas intéressant? Qu'est-ce que Paul a dit? « Demeurez fermes. » Vous savez c'est quoi la différence entre ferme et molle, n'est-ce pas? Quelqu'un qui est ferme spirituellement, quand il est tenté, la réponse est facile. Non, ça ne m'étonne pas. Amen. Quelqu'un qui est ferme, quand il est face à face avec une décision, soit de faire la volonté de Dieu ou de faire la volonté de la chair ou du diable ou de ce monde, ce système du monde, il est ferme. Il n'y a pas une question, ce n'est pas négociable. Quelqu'un qui est ferme dans ses convictions, il reste pareil. Il ne change pas du jour au lendemain. Il ne change pas avec chaque vague, avec chaque tentation. Quand la pression arrive, il reste ferme. Mais c'est quoi qui donne cette fermeté? C'est l'instruction de la parole de Dieu. Si vous n'êtes pas instruit dans la parole, et si vous ne suivez pas les instructions, en exemple, on prend la guérison divine. Vous pouvez avoir entendu que Dieu veut que vous soyez en bonne santé, que vous prospériez à tous égards, comme prospère l'état de votre âme. Et vous pouvez croire. Ah oui, oui, je crois que Dieu veut que je sois guéri parce que j'ai entendu le pasteur. Il a dit une fois. Mais qu'est-ce que vous allez faire quand les symptômes commencent à se manifester dans votre corps et vous avez mal dans votre corps et vous avez les douleurs dans votre corps et tout ce que vous voyez avec les yeux, c'est que ça va pas. Je file pas. Quelqu'un qui est instruit dans la parole, quelqu'un qui a pas juste reçu une parole ou entendu un témoignage, mais quelqu'un qui a reçu vraiment l'instruction des Écritures et tout le conseil de Dieu sur le sujet de la guérison, cette personne va rester ferme dans ses convictions. Moi, j'ai déjà passé un moment dans ma vie pendant 2 ans, 3 fois par jour, parce que j'avais des luttes dans mon corps physique. J'avais une fois, pendant une saison, un maux de tête qui durait 2 ans. À tous les jours, je me levais avec un mal dans la tête. À tous les jours, pendant 2 ans. Et puis, un jour, je dis, ça va faire. J'ai pris la Bible. Et j'ai cherché les versets de la parole de Dieu qui promet, et je me suis laissé instruire par la parole de Dieu et par le Saint-Esprit. Et 3 fois par jour, pendant un autre 2 ans, mais en fait, ça a duré plus que 2 ans, c'était plus. J'avais 2 ans sans cesse, mais sur une période de 10 ans, j'ai lutté avec ça. Mais pendant 2 ans, à tous les jours, 3 fois par jour, matin, midi et soir, j'ai pris ça comme un médicament. J'ai médité les versets qui promettent la guérison divine. Et j'ai plus des maux de tête. C'est une chose du passé, gloire à Dieu. Mais, essaie pas de me convaincre que c'est pas la volonté de Dieu qu'un chrétien soit guéri parce que je suis ferme. Vous avez peut-être entendu des témoignages de personnes et d'une autre personne qui n'a pas reçu la guérison, mais moi j'ai médité pendant 3 ans, 3 fois par jour. Et c'est là! Et c'est ferme. Mais je donne l'exemple de ça, mais la fermeté vient de quoi? Ça vient de recevoir les instructions de la parole de Dieu. La fermeté. Verset 7 de Colossiens 2 dit, « Étant enraciné et fondé en lui et affermi par la foi d'après les instructions. » Soulignez la phrase « d'après les instructions qui vous ont été données et abondées en actions de grâce. » Avez-vous remarqué tout cela? Enraciné, fondé en lui, affermi par la foi. Dieu veut que vous soyez rempli de la sagesse, il veut que vous ayez du repos, il veut que vous ayez la fermeté dans votre vie chrétienne. Et finalement, une autre chose qu'on voit, le résultat de l'instruction, c'est la stabilité. C'est presque comme la fermeté, mais c'est un peu différent aussi. La stabilité, Jésus a donné cet exemple. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique. Soulignez la phrase, les met en pratique. Il sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. C'est stable le roc, n'est-ce pas? La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé. Avez-vous remarqué quelque chose? Le fait d'être enraciné et fondé dans la parole de Dieu ne change pas le fait que les problèmes vont venir. Le vent va souffler, je vous assure, le vent va souffler sur votre maison. La pluie va tomber, c'est juste une question du temps. L'ennemi va cogner à la porte. La tentation va se présenter. La maladie va essayer de s'installer chez vous. Le découragement va vous donner des occasions merveilleuses de vous inquiéter. N'est-ce pas? Les choses vont arriver, mais la différence, c'est que quelqu'un qui a suivi les instructions et qui a écouté et mis en pratique la parole de Dieu, c'est comme quelqu'un qui a bâti sur le roc. Tout le monde dit sur le roc. Et encore, les vents ont soufflé, se sont jetés contre cette maison. Elle n'est pas tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Stabilité. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Est-ce qu'il y a des gens ici qui travaillent dans la construction, qui ont déjà bâti les maisons? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Oui? Imaginez, vous prenez un bon terrain, un bon le gazon est vert, c'est merveilleux, mais vous décidez de bâtir une maison sans faire couler du béton, sans creuser, sans avoir une fondation. Vous allez juste mettre des studs, les 2x6 ou les 2x8, ou dépendant de ce que vous utilisez, vous allez juste monter ça directement sur le sol, sur le gazon. Si la pluie ne tombe pas, s'il fait beau, dans peu de temps, vous pouvez construire une belle maison. Vous pouvez même mettre les carrés céramiques directement sur le gazon. Même poser le plancher du bois franc sur le gazon. Et mettre vraiment un bel revêtement extérieur. Les pièces peuvent être toutes peinturées, décorées, meublées. C'est une belle maison. Et tout le monde de l'extérieur pourrait dire, « Waouh, quelle belle maison !» Il y a juste un problème. Cette maison n'est pas stable. Et ça, c'est vraiment l'image de beaucoup de chrétiens. Ils ont une apparence. Quand tout va bien, tout est merveilleux, hein, ils s'habillent bien, ils sourient, ils ont la Bible sous le bras, n'est-ce pas? Ils connaissent la langue chrétienne, que le Seigneur te bénisse. Sois béni, mon frère, sois béni, ma sœur. Mais ils n'ont pas pris le temps de se laisser instruire dans la parole de Dieu, par la parole de Dieu. Et le problème, c'est que quand la pluie tombe, ces personnes qui ont l'air d'être bien et tout va bien dans leur vie, il n'y a pas de stabilité et la ruine de ces chrétiens est grande. Allô, est-ce que vous êtes là? Donc, on peut avoir deux maisons qui sont identiques, mais une maison qui est bâtie sur le roc va durer, l'autre va tomber. La même pluie, le même vent, les mêmes problèmes viennent contre ces deux maisons. Alléluia! C'est pas le fait que c'est sur le roc que ça change pas les attaques, ça change pas les problèmes, ça change pas la pression de la vie. Mais qu'est-ce que ça change? C'est le résultat. Amen? Combien de vous, vous voulez être stable? Donc, c'est ça, la sagesse, le repos, la fermeté et la stabilité. Ça m'intéresse, et vous? Donc, si ça vous intéresse, on va juste continuer quelques minutes sur le OMC. Vous savez c'est quoi OMC? Oui, mais comment? Comment est-ce qu'on peut faire cela? Comment est-ce qu'on peut mettre cette parole en pratique? J'aime beaucoup Proverbe 4, 13 qui dit « Ne renie jamais l'éducation que tu as reçue. C'est la base de ta vie. Reste-y attaché. » Tout le monde dit « C'est la base de ma vie. » C'est quoi la base de votre vie? L'éducation ou l'instruction de la parole de Dieu. C'est la base de votre vie. Jacques, chapitre 1, verset 21 à 25. Il y a un passage qu'on va juste étudier pour quelques minutes, et on va lire les instructions, on va les suivre. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Encore, votre esprit est déjà sauvé, mais ici, on parle de quelque chose qui peut sauver votre intelligence, votre volonté, vos émotions, n'est-ce pas? Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Le monsieur qui bâtit la maison sur le gazon, il dit, mais c'est beau, c'est joli, c'est assez solide, n'est-ce pas? C'est des faux raisonnements. C'est pas vrai. Ça a l'air d'être une belle maison, mais elle n'est pas stable. Verset 23, « Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera quoi? Il sera quoi? Plus fort? Heureux dans son activité. C'est ça qu'on veut, n'est-ce pas? Satisfaction garantie. Regarde, quelqu'un a dit, vous pouvez être heureux dans la vie. Et puis, dis à la même personne, il faut simplement suivre les instructions. Quelles sont ces instructions? On va regarder un peu plus proche ce verset qu'on vient de lire. Et je vais vous donner une autre vision dans la parole vivante pour souligner chaque point qu'on veut faire. En fait, il y a trois grandes lignes qu'on veut souligner. Premièrement, qu'est-ce qu'on doit faire si on veut vraiment suivre les instructions de la parole de Dieu? Parce que c'est la parole qui me donne la sagesse, c'est la parole qui me donne le repos, c'est la parole qui me rend ferme et qui me donne la stabilité. C'est ça que je veux, n'est-ce pas? Comment est-ce que je peux mettre ça en pratique? Comment est-ce que je peux suivre les instructions? La première chose, débarrassez-vous de tout ce qui s'allie. J'aime beaucoup le verset, débarrassez-vous donc de tout ce qui s'allie, de tout ce qui reste en vous de méchanceté. Qu'est-ce que la Bible est en train de dire? Il faut faire de la place pour la parole de Dieu. Si pendant des années et des années et des années, vous avez été programmé et votre cerveau a été programmé à suivre les instructions du monde, il faut enlever les vieilles instructions, n'est-ce pas? Il faut faire de la place pour la parole de Dieu. C'est-à-dire que si vous continuez à remplir votre cœur et remplir votre tête et remplir votre pensée des choses qui sont contraires à la parole de Dieu, vous aurez de la difficulté à suivre les instructions. Imaginez si dans l'enveloppe que je donnais à Michel Bergeron, j'aurais mis trois cartes au lieu d'une carte. Parce que ici, c'était marqué, allez chercher une enveloppe sous la troisième chaise de troisième rangée à votre droite. Si j'aurais inclus dans la même enveloppe une instruction qui dit ne faites pas ce que vous venez de lire. Cherchez plutôt une enveloppe sous la cinquième chaise du cinquième rangée au centre de l'église. Et puis une troisième carte qui dit oublie ça, ils ne savent pas de quoi ils parlent. God, ben, tout mêlé. Il faut enlever toutes les instructions qui ne sont pas les bonnes, n'est-ce pas? Et il faut avoir seulement et uniquement les bonnes instructions. Et c'est pourquoi la parole de Dieu dit, débarrassez-vous de tout ce qui s'allie, de tout ce qui peut vous confondre dans la vie. Dites, mais j'ai eu assez, j'ai déjà essayé de suivre les instructions du monde, j'ai déjà essayé tout ce que le monde m'a dit qu'il faut faire pour être heureux. Le monde m'a dit, pour être heureux, il faut avoir beaucoup d'argent, peu importe comment tu la procures, si tu voles, ou si tu mentes, ou si tu triches, c'est pas grave, le monde m'a donné tes instructions, j'ai essayé ça marche pas. Le monde m'a dit que si tu veux être heureux, il faut que vous vous couchiez avec autant de filles que possible. Vous savez qu'au Canada, et j'ai pas entendu ça dans milieu chrétien, mais c'était une émission, les nouvelles du monde qui disait qu'au Canada, la plupart des Canadiens vont avoir en moyenne de 14 partenaires sexuels dans leur vie. Ça, c'est la moyenne pour le pays. 14 partenaires sexuels. Parce que ça, c'est les instructions du monde. Faites ça, vous allez aimer ça, vous serez heureux. Mais ça marche pas, vous êtes d'accord? Les instructions de Dieu sont pas mal contraires, vous comprenez? Donc, débarrassez-vous de tout ce qui s'allie. Et puis, la deuxième étape, c'est quoi? Accueillez la puissance de la parole dans un esprit humble. Donc, on enlève tout ce qui ne vient pas de Dieu, on se débarrasse de cela, et puis je suis prêt à accueillir. Recevoir, tout le monde dit recevoir. Le second dit, recevez avec douceur. Accueillez avec d'un esprit humble. Mais qu'est-ce qu'on va recevoir? Qu'est-ce qu'on va accueillir dans notre cœur? On va accueillir quoi? La puissance de la parole de Dieu. J'aime beaucoup ce verset. Accueillez dans un esprit humble et docile la parole implantée en vous, car elle a le pouvoir. Souligne le mot pouvoir. Pouvoir de vous conduire au salut. Seulement ne vous bornez pas à l'écouter. La parole a le pouvoir. Le mot ici, pouvoir, ça vient de la même racine. Vous savez que Jésus a dit, vous recevrez une puissance. Le mot puissance et pouvoir sont des cousins. Ça vient tous de dunamis. On pense au dynamite. Donc, c'est-à-dire qu'on enlève toutes les instructions qui viennent pas de Dieu et on est prêt à recevoir avec un esprit d'humilité la dynamite de la parole de Dieu. Je sais que si je suis les instructions de Dieu, ça va faire exploser en moi la volonté de Dieu. Les bénédictions de Dieu vont éclater dans mon cœur. Allô? Vous êtes un peu endormi là? Avez-vous entendu qu'est-ce que je viens de dire? Que si vous recevez avec un cœur humble la parole de Dieu, ça va faire exploser la puissance de Dieu, les bénédictions de Dieu, la bonté de Dieu. Vous allez vivre dans le bonheur et votre postérité va posséder le pays. Amen? J'aime ça. Et vous? Alléluia. Donc, il faut le recevoir avec humilité. C'est-à-dire que avant d'ouvrir la Bible, j'ai déjà pris une décision. Seigneur, peu importe qu'est-ce que je trouve là-dedans, j'accepte que ta parole est l'autorité suprême dans ma vie. Voulez-vous savoir c'est quoi le secret de recevoir avec humilité la parole de Dieu? Arrêtez de juger la parole dans le sens de dire, bon, mais ma petite vache a mal aux pattes, tirons-la par la queue, je vais obéir à celui-là, mais je m'en fiche de chapitre 5. Parce que ça ne fait pas mon affaire. Et ça gâche mes plans pour ce soir. Oh, vous riez parce que vous comprenez très bien, n'est-ce pas? Ah, franchement. Mais, oh oui, j'aime ça parce que Dieu m'a promis ici la vie, la prospérité, ceci et cela. Mais on ce n'est pas une question de... Ce n'est pas choix multiple, la Bible. Vous êtes d'accord? On accepte avec douceur, avec humilité, que toute la Bible est inspirée de Dieu et que je suis redevable devant elle d'obéir à tous ses commandements et de suivre toutes ses instructions. Amen. Alléluia. Bon. Puis, troisièmement, parce que c'est bon de se débarrasser de ce qui s'allie, c'est bon d'accueillir la puissance de la parole, mais troisièmement, il faut faire quelque chose avec ce qu'on reçoit. Traduisez-la en Amen. Traduisez-la en acte. Traduisez-la en acte. Sans quoi, vous risquez de vous faire illusion sur vous-même. En effet, si quelqu'un se contente d'écouter la parole sans y conformer ses actes, il ressemble à un homme qui observe son visage dans un miroir. À peine est-il parti qu'il a déjà oublié ce qu'il a vu et qui devrait être mis en ordre. Quelqu'un se regarde dans le miroir, il voit que, la sauce spaghetti d'hier soir est encore là. Les cheveux sont pas bien placés ou sont plus là ou je ne sais pas. C'est ça que j'ai remarqué ce matin. Il y a un peu moins là qu'il n'y a pas longtemps. Mais quelqu'un se regarde dans le miroir et il remarque qu'il y a des choses à régler. Il faut se raser, il faut se laver le visage. Mais puis, il s'en va sans... Fait quoi que ce soit. C'est ridicule, n'est-ce pas? Quelqu'un qui prendrait le pain et se regardait dans le miroir et dit « Ouf, wesh, ouf, ok, j'y vais. » Non, on se regarde dans le miroir et dit « on va laver ça, on va se peigner, on va faire tout notre possible, on va faire le mieux qu'on peut avec ce qu'on a, n'est-ce pas? » Mais c'est ça que Dieu veut. Traduisez la parole en acte. Faites quelque chose avec ce que vous lisez. Comme Michel, il a pris des pas vers la troisième chaise du troisième rangée. Il a cherché l'enveloppe, il a suivi encore les instructions et là, il va les fêter avec sa femme. Peut-être. Ou avec son pasteur. Non. Non. Merci. Mais intéressant, parce que si on peut continuer le prochain diapo ici. Par contre, si quelqu'un scrute attentivement la loi qui nous donne la vraie liberté, s'il étudie assidûment, s'il vit avec elle et lui demeure fidèlement attaché, il en arrive ainsi non à écouter pour oublier, mais à agir ponctuellement d'après ce qu'il aura entendu. Un tel homme trouvera le bonheur en obéissant à la parole de Dieu. Prochaine diapo, regardons. Le mot traduire, c'est quelque chose d'intéressant. J'ai regardé ça dans le dictionnaire et si on va traduire la parole en acte, Ça veut dire quoi? De formuler dans une autre langue, une langue cible, ceux qui étaient dans la langue de départ, la langue de source, sans en changer le sens. Ça veut dire quoi? Que à chaque fois que je lis la Bible, il y a un langage biblique qui se trouve ici. C'est écrit en noir et blanc. Mais mon but, c'est de traduire, de faire une traduction. Moi, je sais c'est quoi. Quand nous avons un invité qui prêche en anglais, j'ai besoin de traduire en français sans changer le sens. Et c'est la même chose. On lit un passage dans la parole de Dieu et il faut le traduire maintenant de langue de source à langue dans la langue cible. C'est quoi la langue cible? La langue cible dans la vie chrétienne, c'est que le monde puisse voir la réalité de la parole manifestée dans notre vie quotidienne, n'est-ce pas? Quand la Bible dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ aime l'Église, et s'est livré lui-même pour elle. C'est-à-dire qu'en Marie, voilà, on voit ce langage biblique. Maintenant, traduisez-la en acte. Messieurs, qu'est-ce qu'on peut faire? Donne-moi juste un exemple de qu'est-ce qu'un homme pourrait faire pour aimer sa femme comme Christ aime l'Église et s'est livré pour elle. Un exemple. Quelqu'un? Oh! Qu'est-ce que tu as dit, Michel? Ah oui, aller prendre un café ou donner sa carte à sa femme, hein, mais chérie. Là, je vais avoir des troubles, hein. Je vois, il cache la carte, non. Non. Mais, vous voyez, c'est bien beau de dire, oh, Marie, aimez vos femmes, mais est-ce qu'on est capable de la traduire, de faire une traduction pour que les gens puissent comprendre couramment la langue ou le langage dans la vie quotidienne? Regarde, il y a une autre définition de traduire qui est intéressante. De transposer dans un autre système ce qui était exprimé dans un premier. Donc, on a ici un système de, on pourrait dire, littéraire, où on voit la vérité, on voit les instructions de la parole de Dieu, mais c'est noir et blanc sur les pages de nos Bibles. Mais maintenant, il faut transposer dans un autre système. Quel système? Le système de la vraie vie. Qu'est-ce que je vais faire pour traduire qu'est-ce que je lis dans la langue courante d'aujourd'hui? Est-ce que vous êtes prêts à traduire la parole de Dieu en acte? Donc, voilà quelque chose qu'il faut faire. Regardons. Premièrement, scrutez attentivement la parole. Scrutez, examinez de près, sondez, regardez, cherchez la signification. Ce n'est pas juste une question de lire à une vitesse à 100 000 de l'heure les 5 passages par minute. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que c'est ça. Ils prennent la lecture de la Bible comme un devoir religieux et ils vont juste parcourir autant de pages que possible. Mais c'est pas ça le but. Le but, c'est de scruter, d'examiner, de sonder et de comprendre qu'est-ce que nous lisons, n'est-ce pas? Donc, scruter attentivement la parole. C'est quoi la deuxième chose? Vivez constamment avec la parole. Je devrais pas juste laisser la parole sur le chevelet à côté de mon lit ou sur l'étagère ou à l'église. Je devrais amener la parole dans mon cœur et je devrais vivre avec la parole tous les jours de ma vie. C'est merveilleux. J'ai parlé de ça l'autre jour. Il faut arriver à la place où on n'a plus besoin. Écoutez, qu'est-ce que je suis en train de dire? Nous aurons toujours besoin de notre Bible. Dans un sens, nous aurons toujours besoin de la parole. Mais il faut arriver à la place où même si vous avez oublié votre livre en cuir et en papier, où vous n'avez pas ça sur votre personne, que vous avez toujours la parole dans votre cœur. L'autre jour, il y a deux jours, j'ai amené mon fils pour le baseball. Il avait une pratique avant le match. Donc, je dis, bon, mais j'ai 30 minutes et je venais de manger un peu de pizza avant. J'ai bon, je vais aller brûler les calories. Donc, j'ai fait un peu de jogging et j'ai marché un peu. Mais tout en faisant ça, tout d'un coup, j'avais un verset qui venait dans mon cœur. Hein? Toute chair est comme l'herbe et sa gloire est comme la fleur. Et je commençais à méditer cela. Donc, et ce verset s'est roulé et je le déclarais avec ma bouche, peut-être les voisins. Moi, j'essayais de ne pas être trop bizarre en le faisant, mais je parlais à moi-même. Je parlais de ce verset. Et ça m'a fait du bien. Ma Bible était loin. Mais la parole était proche. Et c'est ça qu'il faut faire si on veut traduire la parole en acte. Il faut vivre avec la parole tous les jours. Puis, demeurer fidèlement attaché à la parole de Dieu. Je demeure fidèlement attaché. La fidélité veut dire quoi? Constance aussi. Je suis fidèle à mon épouse. 365 jours par année. 364 n'est pas assez. Amen? Même chose. Je suis fidèle à la parole et il faut demeurer fidèlement attaché à la parole et finalement agissez ponctuellement d'après la parole. Donc, je vais scruter la parole, je vais l'examiner, je vais vivre avec, je vais demeurer attaché à la parole et je vais agir ponctuellement. Tout le monde dit ponctuellement. C'est-à-dire que je ne veux pas hésiter. Dès que je reçois de l'instruction, je le fais. Michel aurait pu dire, va aller voir, chercher une enveloppe sous la troisième chaise. Il aurait pu mettre ça dans sa poche et dire, mais peut-être la semaine prochaine. Mais la semaine prochaine, l'enveloppe serait peut-être partie. Il faut agir. Dès qu'on a la révélation, dès qu'on reçoit l'instruction, on agit ponctuellement. On traduit la parole en acte. Et si on fait ça, on va voir quoi? On va vivre dans le bonheur. Tout le monde dit, je vais vivre dans le bonheur. Et ma postérité va posséder le pays. Amen. Donc, on va se lever debout, on va prier ce matin. Alléluia. Est-ce que vous avez reçu quelque chose? Mais le vrai test commence dans 5 minutes. Donc, si on peut juste rester tranquille pour 1 minute. Le vrai test va commencer quand vous quittez l'église ce matin. Qu'est-ce que vous allez faire? Alléluia. Est-ce que vous êtes prêt à traduire la Bible en actes pour que le monde qui nous entoure puisse comprendre? Parce que la réalité, c'est que la plupart des personnes qui nous entourent ne parlent pas la langue de la Bible. Ils ne comprennent pas ça, mais ils comprennent bien la langue des actes et des actions. Est-ce qu'on est prêt à traduire pour eux? Père, merci pour ton Esprit Saint. Seigneur, nous te remercions que ce matin, nous avons reçu la parole de Dieu qui a le pouvoir de nous sauver, Seigneur. Et Seigneur, nous te remercions que nous ne serons pas des auditeurs oublieux. On va prier cela ensemble. Père Céleste, merci pour ta parole. Elle est vivante, elle est efficace, elle est puissante. Elle a le pouvoir de me changer, de me transformer de gloire en gloire. Dans l'image de Jésus. Aide-moi, Seigneur, de ne pas être un auditeur qui oublie, mais d'être quelqu'un qui traduit la parole de Dieu en acte, pour que le monde puisse voir, et pour que le monde puisse croire, et pour que je sois capable de vivre dans le bonheur, d'avoir une longue et une heureuse vie ici sur la terre, au nom de Jésus. Juste avant de partir, à chaque dimanche matin, sans exception, j'aime donner une autre invitation. Peut-être vous êtes ici ce matin, et si vous êtes honnête avec vous-même, et honnête avec Dieu, et honnête avec moi, vous n'avez pas encore la conviction dans votre cœur que vous avez reçu le prix ou le don, le cadeau de la vie éternelle. Si en quittant la baptiste ce matin, votre cœur arrête de battre et vous tombez mort et votre esprit quitte votre corps, pensons à ceci, tout le monde. Partez, votre cœur arrête de battre, vous êtes mort, votre esprit quitte votre corps. Où irez-vous? Savez-vous sans aucun doute que vous irez directement au ciel? Savez-vous sans aucun doute que vous avez déjà une place réservée pour vous dans la ville céleste? Sinon, j'ai une bonne nouvelle. Vous ne pouvez pas gagner votre salut. C'est un don gratuit. Vous pouvez tout simplement recevoir par la foi. La Bible dit que si tu confesses avec ta bouche le Seigneur Jésus, c'est quoi un Seigneur? Un Seigneur, c'est un maître, un patron. c'est quelqu'un qui est en charge. Et si Jésus n'est pas ton Seigneur, aujourd'hui, tu n'es pas sauvé aujourd'hui. Parce que la Bible dit que si tu confesses avec ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Et puis, Jésus a dit ceci. Encore, c'est Jésus qui parlait. Et Jésus-Christ a dit, « Si tu me confesses devant les hommes, je te confesserai devant mon Père qui est au ciel. Mais si tu me renies devant les hommes, je te renierai devant mon Père. » Donc, en quelque part, la Bible nous dit clairement qu'il ne faut jamais avoir honte de Jésus. Marc 8, 38 dit, « Si tu as honte de moi dans cette génération, j'aurai honte de toi quand je vienne. » Donc, aujourd'hui, je vous invite, pas à faire partie forcément de cette Église, vous êtes toujours la bienvenue ici, mais qu'est-ce qui est important, c'est de faire partie de la famille de Dieu. Vous dites, mais moi, je lis la Bible. C'est pas assez. Lire la Bible ne peut pas faire de vous un chrétien. Mais je viens à l'église. Venir à l'église ne peut pas faire de vous un chrétien non plus. Comme aller s'asseoir chez Tim Hortons ne peut pas faire de vous une bande. Vous dites, mais je prie. Juste prier ne peut pas faire de vous un chrétien non plus. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est de donner son cœur à Jésus. Et ce matin, je vous donne l'occasion. Si tu me confesses devant les hommes, je te confesserai devant mon Père, Jésus dit. Donc, je vais compter à trois. Je vais taper ma main. Et si vous êtes là, vous n'avez pas honte et vous voulez donner votre cœur à Jésus, vous voulez que je prie avec vous pour que vous soyez sûrs, certains, sans aucun doute, que vous êtes sauvés de vos péchés et que vous avez une place réservée pour vous au ciel. Je veux que vous levez la main haut dans l'air. Qui veut donner sa vie à Jésus? Un, deux, trois. Il y a une personne ici. Est-ce quelqu'un d'autre? Juste lever la main. Quelqu'un d'autre? Merveilleux. Donc, je t'invite juste à venir ici. On va prier. Bien. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? La Bible dit que si un pécheur se répand, tous les anges au ciel seraient justes, n'est-ce pas? Son nom, c'est Jean-François. Jean-François n'a pas honte de dire aujourd'hui qu'il est prêt à suivre Jésus. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a besoin de se rejoindre à Jean-François ce matin? Quelqu'un d'autre? Vous avez la main, David? Sinon, je suis content pour toi. Je suis vraiment heureux. Et on va prier une prière, tout le monde ensemble. Et Jean-François, si tu veux prier cette prière de tout ton cœur, le Seigneur va venir dans ton cœur et faire de toi une nouvelle création. Tes péchés vont être lavés, effacés, comme si tu n'as jamais fait rien de mauvais. Un nouveau départ aujourd'hui, n'est-ce pas bon? On va prier ensemble, tout le monde ensemble, s'il vous plaît. Père Céleste, je veux juste répéter ceci. Père Céleste, je viens à toi. Et je confesse avec ma bouche que Jésus est mon sauveur et mon Seigneur, mon maître. À partir d'aujourd'hui, je veux te suivre. Je veux vivre pour toi tout le restant de mes jours. Je crois de tout mon cœur que Jésus est mort pour moi, qu'il a versé son sang pour moi, qu'il était enterré, mais qu'il est ressuscité. Mon cœur t'appartient et je vais te suivre. Au nom de Jésus, je suis sauvé, je suis enfant de Dieu. Et au nom de Jésus, je te remercie. Amen. Amen. Tu sais, Jean-François, nous avons un cadeau qu'on veut t'offrir, une nouvelle Bible qui peut t'aider comme une nourriture spirituelle qui peut t'aider à grandir avec le Seigneur. Et c'est notre ami Sylvain ici qui va te donner ça. Si tu as d'autres questions, il est là pour prier avec toi. Il prend juste quelques minutes. On a une petite salle de prière juste en arrière de la porte ici. Donc, si tu veux aller avec lui, une minute pour avoir ta Bible. Est-ce qu'on peut remercier le Seigneur pour Jean-François ce matin? Merci, Père.